tu te poses plein de questions sur des sujets divers et variés? Digibus FM fait appel pour toi à des personnes expérimentées.
Tous les jeudis à 11h30, un expert te conseillera, te donnera des clés de réussite ou encore te partagera ses expériences pour que tu deviennes ainsi un pro sur toutes les discussions abordées chez toi ou en vacances. Alors, si t'as un sujet qui te botte et que t'aimerais bien en découvrir toutes les facettes lors d'une prochaine émission, fais-nous le savoir tout vite au 09 82 81 55 66.
Question en vrac à Le Braque, l'émission du jeudi qui contre-attaque.
Vous voulez créer une association, mais vous ne savez pas comment faire ou comment vous y prendre. Eh bien, aujourd'hui, on accueille Tiphaine Rollin, chargée de mission à vie associative à la Ligue de l'enseignement du Doubs.
Eh bien, bonjour Tiphaine, bonjour Baptiste.
Bonjour.
Et donc, aujourd'hui, avec vous, hein, on va parler justement des différentes étapes nécessaires pour créer son association. Et tout d'abord, ce que je vous propose, Tiphaine, c'est de revenir un petit peu sur les principes fondateurs pour créer son association, puisque c'est quand même une des choses très importantes.
Oui, effectivement, en préambule, et c'est d'ailleurs l'étymologie du mot, hein, pour créer, pour s'associer, il faut être au moins deux. Mmh. Donc pour créer une association, il faut être au moins deux fondateurs aussi, qui sont nécessaires pour ensuite faire la déclaration en préfecture dont on parlera tout à l'heure. Tout le monde peut être fondateur d'une association, vous pouvez même être fondateur d'une association avant vos 18 ans. Simplement, si on est mineur, il faut qu'il y ait une autorisation parentale. Ou en tout cas une autorisation sous tutelle si c'est sous tutelle. Du coup, ça peut compliquer un petit peu les démarches. Mmh. Et puis, bien sûr, le but d'une association, c'est que la loi, ce sont des associations sans but lucratif. Donc, il n'y a pas de distribution des bénéfices aux personnes qui sont dans l'association. Ça doit être distribué pour les projets portés par l'association. Mmh. Puisque je rétablis bien, l'association, c'est mieux qu'elle réalise des bénéfices, mais ils ne sont jamais redistribués.
Voilà, oui, parce que souvent les gens disent on n'a pas le droit de réaliser des bénéfices dans les associations. Mais si, on n'a pas le droit de se les distribuer. Heureusement, parce qu'il y a des associations qui seraient mal en point s'il y a des années où ils n'avaient pas la possibilité de faire des bénéfices. Ok. Et donc, souvent, les bénévoles ou les futurs bénévoles aussi pensent que l'on est obligé d'avoir un conseil d'administration, d'avoir un bureau, mais ce n'est pas forcément le cas. Alors, qu'est-ce que la loi 1901 impose en termes d'organisation pour les associations?
Eh bien, rien. En fait, la loi 1901, elle n'est pas là pour imposer l'organisation de l'association. D'ailleurs, ces dernières années, on voit vraiment fleurir, en fait, des associations à différents fonctionnements. Je pense notamment à un des plus courants à l'heure actuelle, qui est le fonctionnement collégial, où on n'a pas les trois organes traditionnels, conseil d'administration, un bureau, une assemblée générale, avec un président, un trésorier, une secrétaire. Ça veut dire qu'en fait, ça fonctionne vraiment à tout le monde est au même niveau. Et on a de plus en plus aussi d'associations qui, même si elles ont un fonctionnement traditionnel, vont créer des commissions pour travailler entre elles et puis essayer de répartir aussi le travail entre les membres de l'association pour que ça ne pèse pas sur une seule personne.
D'accord, donc là c'est déjà justement une première réflexion à avoir quand on est déjà à plusieurs, de dire sur quel fonctionnement on veut opérer, quoi. Il n'y a pas d'obligation justement par rapport à cela.
Il n'y a pas d'obligation, mais c'est très important de le penser en amont, parce que ça devra apparaître dans les statuts. Mmh. Et notamment, je prends le fonctionnement traditionnel qui parle à tout le monde, il faut définir s'il y a de la démission du président ou du trésorier, qu'est-ce qu'on envisage du coup, qui le remplace, comment se passe la démission, tout ça, ça doit apparaître dans les statuts. Mmh. Donc peu importe le fonctionnement, mais il faut penser à toutes les situations qui vont être liées au type de fonctionnement, d'organisation en tout cas, qui sera désiré.
Mais il est bon de rappeler qu'effectivement, la loi, elle, n'impose rien, mais que chacun adapte en fonction de du fonctionnement souhaité. C'est déjà encore une chose importante. Ce que je vous propose cette fois, Tiphaine, c'est d'aborder un petit peu justement les différentes étapes qui sont au nombre de 10, je crois déjà, pour créer son association.
Oui, alors je les ai effectivement mises en 10 grandes étapes. La première, on vient de la citer, c'est d'avoir au moins 2 membres. Et puis si vous pouvez constituer à plus l'association, de définir le rôle de chacun. Mm-hmm. D'avoir un siège social, c'est important, ça devrait vraiment apparaître dans les statuts. Mm-hmm. Qu'il y ait, on le reprécise, mais un but non lucratif. Donc déjà de réfléchir aussi au projet porté à l'association et à son organisation. Mm-hmm. Puis la rédaction des statuts. Mmh. Ensuite, la définition des responsables en fait de l'association, on y reviendra tout à l'heure.
Tout à l'heure, oui, tout à fait.
Voilà. Ensuite, l'écriture, la rédaction du procès-verbal lors de l'Assemblée générale constitutive.
Donc, ce qui sous-entend, on y reviendra aussi, mais qu'il faut organiser une Assemblée générale constitutive.
Exactement. À l'issue de cette Assemblée générale constitutive, la déclaration de l'association, les démarches en préfecture.
Mmh. On abordera puis, tout ça en fin d'émission aussi.
C'est ça. Ensuite, l'obtention du récépissé officiel qui sera transmis par la préfecture. C'est important de le citer parce que souvent, on s'en inquiète plus quand on a envoyé le dossier. Donc, de bien vérifier que toutes ces étapes-là, en fait, même si elles ne sont pas de notre fait, sont bien réceptionnées. Mmh. Et puis, pareil, la publication de l'association au journal officiel, de la déclaration au journal officiel des associations. Mmh. Et si besoin, en fonction des activités portées par l'association, demander un numéro SIRET auprès de l'INSEE.
D'accord, très bien. Numéro SIRET, hein, c'est surtout s'il y a des salariés, je crois.
C'est ça. C'est ça. Oui.
On est bien d'accord. Ok. Alors ça nous donne déjà pas mal d'éléments, hein, Baptiste.
Bah oui, ça fait déjà pas mal d'éléments. Et justement, eh ben avant d'en apprendre encore un peu plus, eh ben ce qu'on va faire, c'est une petite pause musicale. Eh bien, à tout de suite. Toujours à l'écoute de Petit Gibus FM, hein. Nous continuons notre émission Questions en vrac à Lebrac avec notre invité au téléphone, Tiphaine Rollin, chargée de mission vie associative à la Ligue de l'enseignement du Doubs.
Eh oui, on a déjà vu avec elle dans la première partie un peu les principes fondateurs, ce que disait la loi 1901 sur l'organisation. Et juste avant cette pause musicale, eh bien les 10 étapes importantes. Et donc, Tiphaine, ce que je vous propose, c'est de nous préciser cette fois, qu'est-ce que l'on doit trouver dans les statuts d'une association ?
Oui, alors il y a des mentions en fait qui sont obligatoires sous peine que le dossier soit refusé pour la demande de déclaration en préfecture. Typiquement, le nom de l'association, son objet social, c'est-à-dire pourquoi l'association est créée, l'adresse du siège social, comme je l'avais cité dans la première partie, et puis ensuite la descriptif un petit peu des actions qui seront mises en œuvre, c'est-à-dire le fonctionnement, les types de membres, le type justement d'organisation de l'association, les ressources. Tout ce qui concernera aussi les modifications qu'il pourrait y avoir, parce qu'on pense toujours à, on va dire, l'année, la première année, les deux premières années de l'association, mais il faut aussi se projeter dans 5 ans, dans 10 ans. Ce sera peut-être plus les mêmes personnes qui seront dirigeants de l'association. Donc, comment est-ce qu'on réfléchit à des modifications qui peuvent intervenir dans l'objet social de l'association ou même dans son organisation ?
D'accord.
Il faut aussi toujours que soit précisée la dissolution,
Oui, les modalités de dissolution et tout ça. Et donc tout ça, comme vous l'avez dit, hein, voilà, si ce n'est pas renseigné, ben en fait la préfecture peut refuser un peu cette demande de déclaration. Après, pour autant, il faut mettre ces éléments-là, mais plus on en met, plus on ferme aussi les statuts. Donc il faut faire attention justement à pas vouloir trop en mettre.
C'est exactement ça, c'est trouver le juste milieu en fait entre il faut qu'on mette des mentions obligatoires, il faut réfléchir à toutes les situations et en même temps il faut pas mettre trop d'éléments précis. Par exemple, ne mettez pas surtout pas les noms des trésoriers ou du secrétaire qui sont là la première année parce que ça va obligatoirement bouger et pour toute modification dans les statuts, il faut refaire des démarches en préfecture qui peuvent être aussi un petit peu lourdes. Donc le plus on arrive à être prolixe mais précis, c'est vraiment les deux mots-clés. Le plus, en fait, les statuts seront modifiés plus loin dans le temps.
Ah oui. Et puis, notamment, sur le nombre aussi, la constitution du conseil d'administration, si vous mettez, il y a 8 membres, et puis qu'un jour, il y en a 2 de plus, vous êtes obligé de changer. Donc, vaut mieux être large ou même ne pas préciser le nombre. On peut ne pas préciser ou vaut mieux mettre une fourchette?
Oui, non, et c'est très bien de t'as précisé, ou de mettre une fourchette, ça aussi c'est tout à fait possible. Généralement, mettre une fourchette, ça peut être intéressant en fonction du type d'organisation qui est décidé, parce que on va pas être à 30 non plus, ça peut être compliqué derrière, vu que ce sont des organes décisionnaires, pour faire avancer l'association. Donc une fourchette, ça peut être très intéressant, mais je vous rejoins, mettre un nombre précis, surtout pas, parce que ça va évoluer. Et du coup, il y aurait une modification à faire ensuite en préfecture.
Voilà, et par une assemblée générale extraordinaire, parce que les statuts se modifient en assemblée générale extraordinaire. Donc, c'est des démarches complémentaires également. Et pour lancer officiellement l'association, donc il faut, comme vous l'avez dit tout à l'heure, organiser une assemblée générale constitutive. Est-ce que vous pouvez nous repréciser justement à quoi elle sert, cette assemblée générale constitutive ?
Alors, c'est en fait un temps. Alors, si on est deux, c'est pas grave. Même si on s'est vu avant sans que ce soit déclaré comme une assemblée générale constitutive, ça, même si ça prend une dizaine de minutes, c'est relire les statuts, les voter, dire on adopte les statuts, définir vraiment tout ce qui est but et objectif de l'association. Parfois même, le nom d'association peut être décidé ce jour-là et attribué sur les statuts. Et puis désigner les premiers dirigeants et les futures ressources qu'il pourrait y avoir pour l'association lors de cette assemblée générale constitutive. Tous ces éléments doivent être réunis dans le procès-verbal qui sera ensuite un document qui devra être transmis à la préfecture pour la déclaration.
D'accord. Et on en a parlé tout à l'heure et c'est une des démarches pour pouvoir recevoir le récépissé de déclarer tout cela en préfecture et on en parlera aussi à la fin, on reviendra un petit peu sur ces aspects-là. Et donc on a parlé de PV, de procès-verbal d'Assemblée Générale, on a parlé de statut et certaines associations des fois établissent un règlement intérieur. Est-ce que vous pouvez nous préciser dans quel contexte il est conseillé de le faire ? Parce que ce n'est pas obligatoire, mais dans quel contexte c'est conseillé de le faire ?
Oui, c'est bien de le préciser parce que souvent il y a confusion. Ce n'est pas du tout un document obligatoire. C'est pas non plus un document qui est obligatoire pour la déclaration en préfecture. Quand il y a pour l'association la gestion d'un local, par exemple avec accueil de public, c'est intéressant de faire un règlement intérieur pour en préciser l'accueil et revenir sur les valeurs portées par l'association. Pareil, pour développer le projet associatif de l'association ou s'il y a de nombreux partenaires associés, préciser dans le règlement intérieur la gestion derrière d'une subvention ou de la gestion financière tout simplement, ça peut être intéressant d'avoir un règlement intérieur, mais c'est pas nécessaire. Ça va définir en fait les règles des activités associatives ou du fonctionnement de l'association en précisant des choses qui ne sont pas... généralement qu'on indique qu'il ne faut pas indiquer en tout cas dans les statuts pour qu'il n'y ait pas de modification tous les 6 mois.
Oui, parce que ça peut alourdir les statuts.
C'est ça, voilà. Sinon, ça alourdirait les statuts, donc on dit là, précisez-le dans un règlement intérieur. Ça peut être des clauses, en fait, souvent, c'est des clauses supplémentaires qui complètent les statuts de l'association. C'est un complément au statut quand il y a besoin, parce que si le fonctionnement au départ est simple, il n'y a aucun besoin de créer un règlement intérieur. De même, certaines associations ont un intérêt à faire un règlement intérieur dès sa création, mais pour d'autres, le règlement intérieur sera fait 5 ans, 10 ans, parfois même 20 ans après la création de l'association, parce que Léa, elle s'est développée, son objet social s'est développé, et du coup, il y a un intérêt à faire un règlement intérieur à ce moment-là.
D'accord. Très bien. Voilà, encore une chose qu'il est importante de préciser. Et dernier aspect concernant, on en a parlé des statuts et vous en avez jeté deux mots tout à l'heure par rapport aux dirigeants. Des fois, justement, certains font le choix d'inscrire des noms dans les statuts. Et donc, quel conseil leur donneriez-vous ?
De ne pas le faire.
Voilà.
De ne pas le faire parce que sinon, effectivement, il faut changer régulièrement, comme je le disais à l'instant, les statuts. Si vous voulez, justement, c'est quelque chose qui peut être précisé dans un règlement ou dans un document, dans une annexe supplémentaire. Par contre, c'est important, plus que la désignation des dirigeants, vraiment la désignation du rôle de chacun, je pense notamment à un fonctionnement en collégial ou en commission, c'est important de définir le rôle de chacun et les formalités qui lui seront attribuées. Je pense par exemple aussi à la partie, quand il y a un trésorier, donc à la partie financière, s'il y a ouverture d'un compte en banque et donc mandat, la désignation du mandataire pour effectuer les formalités administratives et la signature des chèques bancaires, etc., sont importantes de les préciser dès le début. C'est pas important qu'elles apparaissent dans les statuts, mais c'est important de les définir dès le début, parce qu'il y a beaucoup d'éléments en fait à préciser que vous pouvez tenir sur un cahier à côté. Mais plus vous êtes précis par contre dans le fonctionnement et les formalités de l'association, plus ça vous permettra derrière d'éviter aussi de s'éloigner de l'objet social et du projet associatif de votre association.
Très bien. Ok, encore une fois de très bons conseils.
Et bien, ce que je vous propose, hein, c'est de faire une nouvelle pause musicale et on se retrouve pour continuer à parler de la constitution d'une association. On terminera cette émission avec les démarches pour la déclaration en préfecture. Toujours à l'écoute de Petit Gibus hein, dans notre émission Question en vrac à le vrac hein, pour cette troisième partie. Et on est toujours en direct avec Tiphaine Rollin, chargée de mission vie associative à la Ligue de l'enseignement du Doubs.
Effectivement, Baptiste, maintenant qu'on connaît toutes les démarches de l'idée à la création de notre association et que presque toutes les étapes et les réalisations de documents ont été effectuées, eh bien, avec Tiphaine, on va aborder justement quelles sont les démarches qu'il reste à faire pour la déclaration en préfecture.
Oui, c'est cela. Du coup, une fois que les documents ont été réunis, il faut tout préparer pour faire des déclarations en ligne. Surtout en plus avec la crise sanitaire, maintenant désormais la déclaration est plutôt privilégiée pour le faire en ligne. Donc il y a un questionnaire à remplir qui est en ligne sur la préfecture. Et il faut penser à préparer tous ces documents en amont, c'est-à-dire les statuts de l'association et le procès-verbal de l'Assemblée générale constitutive. Regardez en amont aussi, n'hésitez pas à regarder un petit peu les questions qui vous seront posées lors de la déclaration en ligne pour tout préparer, comme si vous faisiez vos impôts et qu'on doit préparer tous les documents, parce que c'est le même principe. Si ça dure, si on met trop longtemps à aller chercher tel document ou telle information, eh bien la page se ferme, le brouillon se ferme et on doit tout recommencer depuis le début. Il y a des certains en fait qui seront à remplir. C'est pour ça que je disais de prendre le temps de regarder en amont. C'est des chiffres. Hein. Il y a plus de certains en tout cas qui sont en déclaration papier téléchargeable et qui permettront de savoir en amont les questions qui seront posées d'un questionnaire en ligne. Les documents sont à privilégier d'être transmis en PDF. Attention au poids aussi, puisque c'est toujours limité. Et puis, si c'est possible de les réunir en un seul, ça permet en fait de transmettre aussi plus facilement ces éléments. À sa réception, la préfecture va prendre deux types de décisions. Soit il y a un rejet parce qu'il manque un document ou le document a mal été transmis, il n'est pas conforme. Et là, il faudra juste faire une nouvelle demande en rajoutant ce qu'il manque, en tenant compte des observations, puis retransmettre ce qu'on appelle une demande rectifiée, ou alors le dossier est complet dès le départ, et du coup, il y aura un récépissé de déclaration d'association qui sera transmis par la préfecture, ce qui signifiera que l'association est officiellement déclarée. Il faudra donc ensuite aller bien vérifier que l'association a été publiée au journal officiel des associations.
Et donc tout cela, ça, il faut l'anticiper à quelqu'un qui a envie de lancer son association et qui veut commencer son activité assez rapidement. Il faut bien anticiper tout ça hein, parce qu'il y a un certain délai entre la déclaration et puis la réception du récépissé par la préfecture. Parce que ben, comme dans beaucoup de services, hein, je le dis parce que j'ai déjà échangé avec des personnes du service de la préfecture, comme dans beaucoup de services, eh ben, ça ne va pas en s'augmentant en termes d'effectifs. Et ils ont pas mal de démarches à gérer. Hein. Vous êtes du même avis que moi, Tiphaine?
Oui, en fait, en fonction des périodes de l'année, les démarches vont être beaucoup plus longues. Donc, il faut anticiper au maximum vous avez un événement qui est prévu et que vous voulez le lancer sous l'égide de l'association. Effectivement, s'y prendre plusieurs mois à l'avance, c'est être assuré que l'association soit bien déclarée.
Et puis, il me semble que c'est au moins, comme moi, pour l'exemple, même quand il y a des changements ou des choses comme ça, c'est 2 à 3 mois. Donc, pour la création, c'est à peu près la même chose. Donc, vaut mieux, on va dire, aller anticiper puis se dire, allez, il faut au moins avoir 3 mois d'avance parce que voilà, ça peut prendre du temps, comme vous l'avez dit. Si c'est un moment où il y a toutes les assemblées générales, si on sait que c'est plutôt au printemps, en général, il y a beaucoup d'assemblées générales et donc de modifications à faire. Et bien, le service de la préfecture a beaucoup de choses à gérer. Donc, il faudra encore plus anticiper par rapport à cette création. Hein.
C'est ça, et j'ajouterais en plus que le fait de s'y prendre le plus tôt, c'est de se permettre d'avoir aussi le temps derrière de faire les démarches en bancaire, parce que le plus souvent, il y a une ouverture de compte en banque, mais pour pouvoir ouvrir un compte en banque au nom de l'association, il faut que l'association soit déclarée, puisqu'il y aura des documents en banque qui seront demandés, et notamment le récépissé. Donc, si je reprends l'exemple d'un événement qu'on veut organiser sous l'égide de l'association, il faut avoir prévu le temps de traitement par la préfecture et derrière le temps de traitement pour l'ouverture du compte en banque.
Oui, donc tout ça, Ben voilà, n'hésitez pas aussi, hein, y a des... Alors, on peut contacter, on peut vous contacter, vous, on y reviendra à la fin, mais pour des renseignements, mais la préfecture est joignable. D'ailleurs, on a dit le, on n'a pas donné le site pour les déclarations. Est-ce qu'on le donne? Vous l'avez?
Oui.
Vous,
oui. Alors, je le tape très vite.
Ah, c'est les aléas du direct. Baptiste est en train de faire la même chose. C'est la question qui me vient, on pourra retrouver, mais c'est asso.gouv.fr, je dirais, de mémoire, mais... Je ne suis pas sûr.
Oui, c'est... il faut passer par ça. De toute façon, ce sera le premier cheminement. Ouais.
Plus facile, ouais. Ouais. www.asso.gouv.fr.
C'est ça.
Ouais. Oui. Ok. Bon, ça va, j'ai bonne mémoire. Et puis, ce qu'on disait par rapport au, à la, aux démarches en, en préfecture, on n'en a pas parlé. Hein, l'objectif aujourd'hui, c'était bien de parler de la création. Mais ce qu'on a dit hein, par rapport à ces démarches et tout ça, c'est valable aussi pour les associations qui ben, organisent une assemblée générale et doivent faire des déclarations à l'issue de leur assemblée générale. Hein, il faut anticiper aussi, parce que des fois, on a besoin d'un récépissé. Ben, il ne faut, faut pas s'attendre à avoir le récépissé le lendemain de, notre, de la déclaration du changement. Hein.
Ah oui, c'est tout à fait le même principe. Là, on parle de création d'association, mais effectivement, pour tout changement avec une assemblée générale extraordinaire, il va falloir anticiper si le récépissé est nécessaire pour d'autres démarches.
Mmh. Je vais peut-être vous poser une colle, Tiphaine, mais voilà, j'ai une petite question supplémentaire. Justement, suite à l'assemblée générale, quelle démarche doit effectuer une association voilà, du moment où il y a bon, changement de statut, tout ça, bien évidemment, mais du moment où il y a changement du, des dirigeants et tout cela, ben, on doit faire une déclaration à la préfecture. Hein.
Oui, c'est ça. Notamment quand ça concerne le président.
Mmh. S'il y a uniquement un changement des membres, c'est pas forcément nécessaire.
Uniquement un changement des membres, non, je dirais que c'est pas nécessaire. Par contre, pour le changement de président, ça l'est.
Ça l'est, ouais. Ouais, on est bien d'accord. Parce que c'est considéré dans les dirigeants. Dans les dirigeants. Ok. Ça marche.
Dans
bien.
Les organes dirigeants obligatoires, oui, c'est ça.
D'accord. Ok. Eh bien, c'est nickel. Hein. On a vraiment bien détaillé un petit peu toutes les étapes de création d'une association. Donc, si vous avez pris en, en cours de route, hein, puisque cette émission, voilà, depuis quelques minutes avec Tiphaine Rollin, donc de la ligne de l'enseignement sur la création d'une association, était fort intéressante, puisqu'il y a plein de choses qu'on a appris ou qu'on a redécouvert. Donc, si vous avez pris en cours de route, n'hésitez pas à retrouver hein, cette émission qui sera en, en podcast sur www.petitgibus.fm, dans la partie questions en vrac à le Brac. Donc j'espère que les auditrices, les auditeurs auront appris pas mal de choses, toutes ces démarches à effectuer. Donc je remercie encore sincèrement Tiphaine Rollin, donc, qui je le rappelle est chargée de mission vie associative à la Ligue de l'enseignement du Doubs.
Merci à vous de m'avoir reçu. Et puis s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter, la Ligue de l'enseignement est là pour accompagner les associations dans leur démarche.
Eh bien rappelez quelques coordonnées puisqu'on en parle.
Oui. Eh ben oui, effectivement. Ben, on peut retrouver nos contacts sur alors la Ligue 25. Mm-hmm. Alors, je vais aussi donner, vu que c'est le direct.
Oui. On va donner un téléphone et puis un mail. Allez.
Alors, le téléphone, c'est le 03 81 25 06 36.
D'accord.
Donc je suis Tiphaine Rollin, c'est moi qui gère le centre de ressources et les démarches, l'accompagnement en tout cas des associations autour de la vie associative. Et puis on peut déjà trouver un centre de ressources en ligne sur notre site internet sur www.laligue25.fr.
Ok, très
et
bien.
Et il y aura de nombreux documents tels qu'un procès-verbal type, etc.
Ok, et donc justement avec Tiphaine ou ses collègues ou d'autres contacts, eh bien, on parle de vie associative une fois par mois. Et donc le prochain rendez-vous, ça sera donc le jeudi 17 février, à émission durant laquelle eh bien, Tiphaine nous donnera un petit peu des éléments sur les financements associatifs, hein, c'est bien cela?
Oui, c'est ça. Vu qu'en mois de février, il y a beaucoup d'appels et de subventions qui tombent, eh bien, ce sera l'occasion de parler financement et qui ne sont pas que des financements publics.
Voilà. Donc, OK. Ben, on a hâte. Et puis, si les auditeurs, hein, justement, vous avez des questions justement sur ce sujet-là aussi, sur les financements associatifs, eh ben, n'hésitez pas à nous en faire part. Et puis, on pourra préparer des réponses avec Tiphaine qui vont dans ce sens et pour vous accompagner aussi dans ces démarches.
Avec plaisir.
Ok.
Et donc, eh ben, prochain rendez-vous hein, de l'émission Question en vrac à le vrac, ça sera la semaine prochaine.
Et puis du coup, en fait, c'est les aléas du direct, parce que je viens de recevoir le SMS. Ah, j'avais prévu une intervenante et qui vient de me confirmer qu'elle ne sera pas disponible. Donc, on vous annoncera dans la semaine, le programme de la prochaine intervention. Je voulais peut-être, en route secours, je vais voir, avoir quelqu'un qui allait en informatique sur un peu, justement, les antivirus, toutes ces choses-là. Voilà, comment protéger nos équipements informatiques. Donc on parlera peut-être de ça la semaine prochaine. Donc si vous avez des questions, des sujets à aborder avec des experts, eh bien, n'hésitez pas à nous en faire part via les réseaux ou sur notre site internet ou par mail. Hein, toutes les infos, vous les trouvez sur ptjbus.fm. Donc merci encore à Tiffen, belle fin de journée à vous.
Merci à vous aussi.